C'est sur la scène du théâtre européen que le livre de la semaine nous emmène. Quand l'Europe improvise, 10 ans de crise politique. Voilà le titre de cet ouvrage publié en octobre dernier chez Gallimard. Son auteur est un philosophe et historien néerlandais, Luc Van Middelaar. Il a rédigé pendant 5 ans les discours d'Herman Van Rompuy, qui était alors président du Conseil européen. Et c'est Laurence Boone qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tiffany.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef économiste à l'OCDE et ancienne conseillère économique du président François Hollande. Alors la grande thèse de Luc Van Middelaar, qui s'impose, semble-t-il, comme l'un des grands intellectuels européens, c'est que les crises que l'Europe a traversées, crise de la dette, crise migratoire, crise avec la Russie après l'annexion de la Crimée, ou encore Brexit, toutes ces crises l'ont transformée de bureaucratique ou technocratique. L'Europe est redevenue politique.
Il écrit ce livre dans une période qui est extrêmement intéressante, puisqu'on parle de toute la construction économique de l'Europe, notamment avec beaucoup de règles et d'institutions et sur des sujets vraiment très très économiques et financiers, à une période qui va devenir beaucoup plus politique, puisqu'on a, comme vous le disiez, le Brexit, puisqu'on a dû prendre des mesures pendant la crise financière qui ont été un petit peu, pas en dehors des traités, mais en tous les cas, où la volonté politique a dû être un peu supérieure à ce qui était écrit dans les règles. Et puis, on passe d'une époque de l'Europe heureuse, où on est dans la construction, à quelque chose de beaucoup plus difficile, où d'abord on quitte un peu les sujets économiques, et quand on parle de transfert de souveraineté, mais c'est quand on s'adresse aux réfugiés, ou quand on est en train de discuter tout ce qui est digital, et c'est toute une nouvelle problématique, c'est ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant.
Selon Luc Van Middelaar, les crises ne font pas que révéler les faiblesses des institutions, elles peuvent aussi être le moteur d'une construction qui se réalise, dit-il, pleinement dans l'improvisation. Alors prenons par exemple l'exemple de la crise grecque en 2010. Luc Van Middelaar souligne à la fois l'importance de l'action de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel et la créativité des institutions qui inventent alors des mécanismes de stabilité et de surveillance. C'est dans l'improvisation que l'Europe se consolide, Laurence Boone. C'est à la fois des hommes et des femmes et des institutions qui ont permis de sortir de ces différentes crises.
Oui, parce que vous avez tout à fait raison. Pendant toute la crise, d'abord financière de 2008, et puis qui s'est transformée ensuite, effectivement, en une crise plus spécifique à l'Europe, il y a une créativité extraordinaire pour arriver à consolider la zone euro, et qui décrit très bien, et me rappelait une phrase d'un économiste ou politologue anglais qui dit toujours que les anglo-saxons ont sous-estimé la volonté politique de faire l'Europe, hein, des Européens, mais les Européens ont sous-estimé le coût économique. Et je pense que la façon dont il décrit la crise et la créativité des chefs d'État est vraiment celle-ci. La crise grecque, c'est une surprise pour tout le monde. On n'avait aucune idée de l'ampleur des déficits. On pouvait penser que ce n'était pas tout à fait ce qui était sur le papier, mais pas dans cette œuvre-là. Et il décrit ça aussi très bien. La profondeur des liens entre les systèmes bancaires et financiers des pays européens qui fait que la crise de la dette grecque n'est en fait pas qu'une crise de la Grèce, mais de toute la zone euro potentiellement. Et à ce moment-là, on voit les hommes rentrer en scène et faire preuve d'une créativité incroyable, que ce soit les chefs d'État, effectivement Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, mais aussi après la Banque Centrale Européenne qui va vraiment consolider avec les phrases qu'on connaît.
Quelle forme, justement, Laurence Boone, cette créativité a-t-elle prise, que ce soit du côté des responsables politiques ou du côté des institutions ?
Il n'y avait pas de mécanisme au moment où on rentre en crise en 2010. Il n'y avait pas de mécanisme dit institution en Europe pour faire face à un mouvement d'une telle ampleur. Juste pour mettre deux chiffres en perspective qu'il évoque d'ailleurs dans le traitement, on avait un mécanisme au cas où il y aurait une crise dans un pays qui ne faisait pas partie de la zone euro. Et dans ce cas-là, on avait un pot de 60 milliards pour adresser cette crise. Or, quand on regarde ce qui se passe pendant la crise de la dette souveraine en zone euro, au moment de 2011 dont il part et qui va se prolonger jusqu'en 2012, on est en train de parler de montants qui sont 10 fois supérieurs à ça. Et là, on va voir une volonté politique très forte des deux leaders français et allemands, et les autres suivront. Et ensuite, une ingénierie derrière pour arriver à faire un mécanisme où, en gros, s'il y a besoin, il y aura ces montants 10 fois supérieurs, mais on n'a pas besoin de mettre l'argent tout de suite sur la table. Donc, eux ont été très, très créatifs. Et ensuite, je pense que la Banque Centrale Européenne, quand elle a la force d'une institution qui, finalement, est une des rares si ce n'est la seule dans la zone euro, à penser à la zone euro dans son ensemble et jamais à être une somme d'intérêt particulier, puisque les chefs d'État représentent quand même encore leur pays avant la zone euro, qui, elle, va effectivement déployer des trésors d'ingénierie pour soutenir les banques, puis pour soutenir les États, puis en fait pour faire peur au marché et finalement mettre le holà à la contagion de la crise.
Et justement, Laurence Boone, en quoi la crise financière de 2008, puis la crise de la dette ensuite, ont transformé en profondeur la Banque Centrale Européenne ? Son rôle a très largement évolué en Europe.
Alors, d'une certaine façon, c'est un peu un reflet de ce qui s'est passé avec les institutions européennes. C'est un exercice politique, je pense, très subtil quand on parle de la Banque Centrale Européenne, puisqu'il s'agit à la fois de respecter un texte, ensuite de maintenir leur indépendance, et en même temps, c'est l'institution qui peut agir le plus rapidement en mettant de l'argent sous la table. Et la grande différence entre une crise de la dette en Europe et une crise de la dette en dehors de la zone euro, c'est qu'en dehors de la zone euro, n'importe quelle banque centrale peut décider de racheter toutes les dettes, et en fait, c'est un prêteur et un acheteur en dernier ressort quand il y a une crise. Qui sauve un souverain? En zone euro, c'est pas ça. C'est comme si chaque pays de la zone euro n'était plus complètement, évidemment pas complètement maître de sa monnaie et n'a pas d'acheteur en dernier ressort. Et le génie des personnes qui ont dirigé la Banque Centrale Européenne, c'est de s'accommoder de ça pour arriver en fait à dire au marché, mais en fait, s'il y a un acheteur en dernier ressort, c'est moi. Et si vous essayez de m'attaquer, je serai en face. Et ça, c'est quelque chose. C'était la fameuse phrase « Je ferai whatever it takes », je sais en français, tout ce qu'il faut. Et croyez-moi, ça sera suffisant, qui à la fin convainc. Mais si je peux juste rajouter une chose, je crois que ce qui est très important et l'équilibre qu'on voit bien dans le livre aussi, c'est un équilibre dans lequel une institution indépendante qui n'est pas politique ne peut pas agir sans des chefs d'État qui sont politiques. Et ce qui domine en fait toute la trame du livre, je trouve, et qui les retrace très bien, c'est la volonté politique qui fait avancer et tient un bout de bras cette construction européenne.
Alors on trouve aussi dans le livre de Luc Van Middelaar cette tension entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, déjà décrit par Max Weber dans Le Savon et le Politique. Comment s'incarne, Laurence Boone, selon vous, cette tension dans la politique économique de l'Europe ?
Je pense que le mot qui la caractérise le mieux, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral, hein, et qui a toujours été un point de dissension entre l'Europe du Nord, entre guillemets, et les pays d'Europe du Sud. Je pense que le mieux, c'est de prendre l'exemple de la Grèce. Hein. Il était clair que ne pas sauver la Grèce en 2010, c'était prendre le risque d'une contagion qui allait du Portugal à l'Espagne, à l'Italie et finalement à l'Europe entière. Hein. Parce qu'on est tous intimement liés. Maintenant, sauver quelqu'un qui n'a pas été honnête sur ses comptes, qui n'a pas respecté les traités européens, ses engagements budgétaires, c'est ça l'aléa moral. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire aux autres, faites ce que vous voulez, parce que de toute façon, on sera là pour vous sauver. Donc il y a eu cette tension très énorme. En se disant, mais en fait, on ne devrait pas les sauver parce qu'ils ont triché, entre guillemets. Et oui, mais on a un devoir moral sur les autres. Et ça se manifeste à chaque fois, et aujourd'hui comme au moment de la crise grecque.
Alors aujourd'hui, autre crise qui se profile, le bras de fer entre Bruxelles et Rome continue. La Commission européenne a ouvert une procédure de déficit excessif contre l'Italie. Matteo Salvini, le chef de la Ligue, a quant à lui appelé les Italiens à manifester demain, tandis que le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé une version révisée du budget. Des tensions qui interviennent dans un contexte global de défiance de Rome vis-à-vis de Bruxelles. Alors quel regard portez-vous sur cette nouvelle crise, Laurence Boone ? Comment l'Europe peut-elle en sortir, sinon renforcée, au moins indemne ?
Alors d'abord, être dans une procédure de déficit excessif, c'est pas dramatique. La France l'a été pendant longtemps. C'est d'abord un cadre de dialogue entre les autorités nationales et les représentants des autorités européennes. Quand vous dites Bruxelles, et ce qui me frappe, c'est ça montre toujours qu'on considère que c'est un espèce de corps étranger à nous, alors qu'en fait, on fait partie, les règles européennes, la procédure budgétaire fait partie du quotidien d'un ministre des Finances, ou qu'il soit dans la zone euro. En fait, d'une certaine façon, en mai 2017, quand Emmanuel Macron est élu président de la République, il a réussi à faire campagne sur l'Europe, et les clivages qui existait au sein des partis, je pense, se manifeste aujourd'hui de façon beaucoup plus claire. On a une partie de l'Europe qui est pro-européenne et une partie de l'Europe qui se méfie ou qui a une certaine défiance envers l'Europe. C'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en Italie, en Espagne, chez nous, c'est un peu vrai partout. Quand on dit Bruxelles, la vérité, c'est que c'est les personnes qui traitent ça, ce sont les ministres des Finances de la zone euro. Donc c'est le ministre des Finances italien, avec son gouvernement derrière, bien sûr, qui rentre dans un processus de négociation et de discussion avec les autres ministres des Finances de la zone euro. Donc c'est à la fois politique et technique, et je pense que c'est à l'ensemble des pays de la zone euro d'arriver à maintenir ce dialogue et à trouver le bon équilibre entre le respect des règles, et c'est vraiment l'objet du livre, et la politique qui est derrière.
Laurence Boone, est-ce que l'Europe sort vraiment renforcée de ces 10 années de crise, comme Luc Van Middelaar semble le sous-entendre? Ou est-ce que, selon vous, on se dirige vers une nouvelle crise à quelques mois des élections européennes, qui peut être politique, qui peut aussi être économique?
Alors, sur le plan de la solidité de la zone euro, je pense que si on reste sur un plan très technique, oui, l'Europe s'est renforcée. Il y a énormément de choses qui ont été faites pendant ces 8-9 années de crise financière, enfin de la dette de la zone euro. Après, aller expliquer l'union bancaire à quelqu'un, c'est quand même assez peu évident. Donc je pense qu'en revanche, d'un point de vue politique, il reste énormément de choses à faire. Et l'Europe, c'est toujours un équilibre fragile entre la technique et le politique. Et je pense que sur le politique, les tensions qu'on voit au niveau européen reflètent les tensions nationales, et qu'on est effectivement dans un moment très compliqué, dans lequel le débat européen va être très vif. Et c'est toujours plus facile d'être contre et de critiquer ce qui s'est passé que d'être pour et d'expliquer à chaque personne ce que l'Europe lui a apporté.
Et alors, qu'est-ce qui peut permettre aujourd'hui, selon vous, une relance de la construction européenne, alors que la défiance envers Bruxelles n'a jamais semblé aussi grande?
Alors, c'est à nouveau le mot que vous venez de faire, la défiance envers Bruxelles, mais c'est Bruxelles, c'est les chefs d'État européens, et c'est quelque chose qui ressort très bien de ce livre. Les décisionnaires sont les chefs d'État européens. Donc quand on dit l'Europe a fait ci, l'Europe a fait ça, non, ce sont les chefs d'État ensemble qui ont décidé de faire ci ou de faire ça. Je pense que l'agenda, il se déplace du pur zone euro à quelque chose économiquement beaucoup plus large, avec le problème du digital, hein, qui pour le coup est nouveau. Donc c'est quelque chose sur lequel les dirigeants européens, notamment Emmanuel Macron, peuvent vraiment faire campagne. On va faire quoi avec ce monde digital, la façon dont ça change de travail, la concurrence des superstars, entreprises américaines, etc.
À l'heure où la taxe GAFA est en discussion et à peine à voir le jour.
Absolument, pour des intérêts économiques qui ne sont pas toujours parfaitement alignés, mais je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et puis il y a aussi un déplacement d'agenda économique, comme vous le disiez, vers un agenda politique, où en fait le vrai sujet européen, je pense qu'il est double. Il est celui des frontières et de la façon dont on gère les réfugiés et les migrants, parce que c'est une question qui va durer longtemps dans le temps, surtout avec toutes les tensions géopolitiques que vous connaissez. Une Chine qui a un modèle qui n'est pas un modèle capitaliste, social, comme on peut l'avoir évidemment, et des valeurs sociales très fortes en Europe, et en même temps des valeurs de marché. Donc le défi, et je pense que la campagne devrait être là-dessus, c'est comment est-ce qu'on fait grandir ce modèle et qu'on en fait une puissance qui est aussi forte que les États-Unis et la Chine, de façon à ne pas subir leurs propres tensions.
Merci beaucoup, Laurence Boone, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir l'ouvrage de Luc Van Middelaar, Quand l'Europe improvise. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.